Non mais sérieux, bienvenue dans Sass Lab les gars, on se retrouve dans la vraie vie, dans le vrai monde pour cet épisode 4 ou 5, peu importe, avec Romain. Comment ça va Romain?
Mais écoute, super content d'être sur ton podcast, en vrai ça fait un moment qu'on se parle et tout, et donc là bah, de se voir en vrai déjà c'est trop cool. Et en plus on est dans le même milieu, on a plein de choses à se dire, donc en vrai content d'être là.
Ok, trop cool. Bah, pour expliquer un peu aux gens, là, on s'est pris un petit Airbnb avec 5-6 entrepreneurs, le SDD Crew. Je vous laisse aller nous suivre et regarder ça de plus près sur LinkedIn. On ne va pas trop en parler dans ce podcast. Là, on va plus parler des SaaS de Romain. Parce que Romain, bah, tu vas nous parler un peu de ton parcours. Pourquoi tu es connu, pourquoi on est ici.
Ok. Alors, déjà, pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, j'ai développé mon premier SaaS, SendShort. Qui est un SaaS de, qui était un SaaS de création de shorts en fait pour les créateurs de contenu pour les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire que c'était fait pour leur accélérer le travail en fait, parce que quelqu'un qui crée des vidéos pour YouTube, il n'a pas forcément le temps de se créer des vidéos pour TikTok, Instagram et YouTube Shorts, alors que pourtant c'est un énorme canal à prendre pour accélérer en fait sa croissance. Et donc nous on s'est dit, bah, si ça peut aider des gens à aller plus vite, go le faire. Donc ça, c'est le premier SaaS que j'ai fait, qui a super bien marché et que j'ai revendu il y a, en juin, là, donc il y a 3 mois. Et voilà, donc ça, c'est ce qui est un peu sur ça que j'ai pu surfer pour me faire connaître, parce qu'en vrai, connu, mais à quelle échelle, quoi.
Parce que vous pouvez te retrouver sur YouTube, tu parles aussi de SaaS, YouTube. Sur LinkedIn, sur X, je crois.
Ouais, sur, je dis tout le temps Twitter, mais
oui, sur Twitter.
sur X, ouais. Bah, c'est là, X, en vrai, c'est là où j'ai commencé en premier. Et au final, c'est celui où ça a mis le plus de temps, et étonnamment, pour celui où j'étais le moins régulier. YouTube, c'est celui où ça allait le plus vite.
Ouais.
Et LinkedIn, en vrai, j'y vais, mais c'est plus, je me force à faire LinkedIn, en vrai, pour. Parce qu'en vrai, il y a un gros canal d'acquisition là-bas, tout le monde le sait, et t'es un peu obligé d'être là-bas, quoi, si tu veux.
Parce que toi, ouais, t'as commencé à sur X, moi aussi. Et c'est vraiment YouTube qui a fait exploser ton audience.
Alors, je sais. En fait, l'avantage, c'est que vu que je montais les trois réseaux en même temps, ça faisait un peu une ellipse. Soit chaque réseau se poussait l'un et l'autre. Et ce qui fait que j'avais un peu de l'attraction sur tous les réseaux en même temps. J'ai pas eu de. Là, sur tous les réseaux, je suis à peu près à la même échelle partout.
Ouais.
Et donc, je pense que c'est intéressant d'en avoir plusieurs et d'essayer de rediriger les communautés que tu chopes à un endroit sur tes autres. Donc, à chaque fois, souvent. Bah, sur LinkedIn, je parle souvent de mes vidéos YouTube. Sur Twitter aussi. Il n'y a pas trop de liens entre LinkedIn et Twitter.
Okay, tu ne fais pas le même contenu sur X et sur LinkedIn?
Non. Okay. Sur X, c'est plutôt du contenu que je fais à l'arrache, comme ça. Il n'y a quasiment rien de programmé. C'est vraiment des posts, je sais pas, je parle avec quelqu'un ou je vois un truc sur Internet, je me dis « Ah, ça peut être intéressant d'en parler ». Soit je fais un tweet à l'arrache comme ça, j'envoie. Soit je me dis « Je vais faire un truc un peu structuré en plusieurs en threads, quoi.
Ouais. »
Ouais, si c'est un truc avec un peu plus de valeur. Et sur LinkedIn, par contre, c'est vraiment. Je crée tous mes posts le même jour et je les pré-programme pour toute la semaine. Donc là, c'est vraiment plus des posts bien écrits. Parce que LinkedIn, c'est mieux de faire des trucs comme ça, bien écrits, bien structurés. Et surtout, quasiment que des choses où les gens ils peuvent. Avec de la valeur, quoi, où les gens ils peuvent apprendre des choses. Que sur Twitter, tu peux raconter ta life. Par exemple, j'ai des tweets qui ont super bien marché ou. Juste, bah, je prenais une photo dans mon canapé, tu sais, je m'étais en mode setup du jour et j'étais avaché dans le canapé avec mon ordi sur les jambes. Ou alors, quand il n'y a pas longtemps, je suis parti à Marrakech et les gens, ils aiment bien des trucs comme ça, alors que tu mets ça sur LinkedIn, ça ne sert à rien. Quoi. Donc, ce n'est pas vraiment le même type de contenu. Et donc, tout ça, j'essaye de ramener sur YouTube. J'essaye à chaque fois que je poste une vidéo, je partage sur les deux réseaux. Mais je ne fais pas de croisement LinkedIn et Twitter parce que pour moi, ce n'est pas trop la même audience.
Ouais, parce qu'on va venir après sur ton SaaS AdSpeb.
Ouais.
D'ailleurs, il y a pas mal de MRR, vous allez voir, c'est intéressant. Parce que tu es en train d'enchaîner des SaaS qui marchent, donc franchement, GG pour ça, on va y revenir après. Mais le sujet-là est grave intéressant, parce que moi, pour la petite histoire, hein, j'étais un client de ton premier SaaS, SendShort. J'ai dépensé, on a regardé, je crois, hier, 200, entre 100 et 200 euros. Et j'ai connu ton SaaS, justement, parce que tu en parlais sur X, et que je me suis lancé sur X en même temps. Et donc, en fait, pour toi, est-ce que le personal branding, c'est une bonne source d'acquisition pour un SaaS?
Ouais, alors. Ce qui est marrant, c'est qu'on a commencé X un peu en même temps. Ouais. Toi, tu avais pris une pause à un moment et moi, j'avais continué. Et pour moi, le personal branding, c'est grâce à ça en fait, que tu vas pouvoir lancer ton projet. Quoi. Là, En fait, sur Sendshort, c'était majoritairement grâce au personal branding de mon associé Vincent qu'on a pu le lancer au départ. Tu vois, s'il avait pas, au départ, on a lancé, je crois qu'il avait genre 8000 abonnés peut-être sur Twitter. Donc déjà, tu vois, ça fait énormément de gens à toucher. Et comme c'était un produit mainstream, bah, ça parlait un peu à tout le monde. Donc on a pu avoir déjà énormément d'utilisateurs de base. C'est juste que si tu lances ça et que tu n'as pas de communauté de base, bah, avant de le faire connaître, avant, voilà, déjà nous dans notre cercle dans notre network, dans notre réseau, on avait déjà des monteurs vidéo et tout sur lesquels on pouvait déjà avoir des feedbacks, etc. Et si t'as pas ce réseau de base, en fait, c'est très compliqué. Là, pour mon nouveau SaaS AdSpell, c'est pas mon réseau. Là, c'est pas du tout mon réseau parce que moi, c'est encore Sendshort, tu vois, je pourrais en parler puisque bah, comme je faisais du contenu, que ce soit pour YouTube, aussi sur LinkedIn et tout, c'est plus simple d'en parler puisque c'était un truc vraiment très mainstream et que n'importe quel créateur de contenu, il pouvait se reconnaître dedans. Alors que là, comme c'est très niché sur un certain secteur qui est pas du tout en rapport avec ce que je fais, ça vaut pas vraiment le coup. Moi, je vais parler surtout sur le côté design, sur les côtés stratégie vraiment SaaS, etc. Mais sur le côté produit en lui-même, je vais pas parler parce que c'est pas mon cœur, c'est pas ma cible en fait, donc ça sert pas à grand-chose. Et donc là, c'est mon associé qui lui apporte à toutes ses connaissances métiers-là et a déjà un peu de network dans cette catégorie-là, qui lui fait le building public sur le SaaS. Et donc c'est lui qui fait des case studies sur comment il améliore les résultats de ses clients grâce au SaaS, etc. Et donc c'est grâce à ça que ça nous apporte nos premiers clients en fait. Et donc si lui, il n'avait pas de base ce network en fait, à chaque fois je dis network, mais ce réseau,
Ouais, cette audience.
cette audience dans cette niche-là, bah, ouais, c'est un peu comme si tu jetais une bouteille à la mer, quoi. T'attends que quelqu'un trouve ta bouteille sur une île. Et voilà, donc ouais, moi je trouve que c'est hyper important de base, avant même de lancer un produit, d'essayer de se créer une audience autour de soi, quoi, de ce qu'on aime, même si plus tard, le produit qu'on veut faire, il n'est pas forcément dans sa propre niche. Bah, grâce à l'audience que tu vas peut-être créer, grâce au réseau que tu vas peut-être créer, bah, tu vas peut-être trouver quelqu'un qui lui a une niche intéressante et tout, tu vas pouvoir t'associer avec lui pour faire un produit. Mais si de base tu n'avais pas fait cette création de réseau et d'audience, t'es dans ton coin, bah, tu peux pas avoir ces opportunités-là.
Ouais, parce que là, du coup, le SaaS que tu as lancé, ça parle pas du tout à l'audience à qui tu
Non,
t'adresses sur les
voilà.
réseaux, mais par contre, ça t'a permis de networker quelqu'un
C'est ça.
et d'avoir la crédibilité de lui
C'est ça.
parler et du coup de créer un projet
Ouais,
avec lui.
c'est ça. Et en fait, il y a même beaucoup de gens maintenant qui viennent me demander, bah, t'es dispo pour faire un SaaS et tout. J'ai même trop de gens qui me demandent ça alors que bah, je m'en demande. Même des fois, il y a des trucs intéressants, mais je leur dis, je préfère pas me disperser de ce que je fais. Genre, non, bah, désolé. Et avec mon disque, je redirige, j'essaye de voir s'il y a des gens dans mon Discord qui peuvent être intéressés pour faire le projet. Mais voilà, maintenant, c'est ça qui est bien en fait, quand tu montres que tu sais faire quelque chose, après, on vient directement vers toi. C'est plus toi qui es obligé de chercher les gens, quoi. Et bah, toi, tu commences à. Tu vois aussi avec ta chaîne YouTube et tout, tu vois. Quand tu montres que tu as eu des résultats avec des clients pour tes SaaS, et donc on te contacte pour venir prendre. Pour que tu puisses créer les SaaS des gens, en fait.
Totalement, totalement.
Et t'es pas obligé de. Tu vois, le mec, il va venir te contacter. Il va pas te faire un test pour voir si tu sais le faire et tout. En fait, il sait que tu sais le faire parce que t'as montré.
C'est ça qui est hyper puissant, c'est que les rôles s'inversent. C'est lui qui vient me demander un
Ouais.
truc, au lieu que ce soit moi qui viens lui demander de créer son SaaS. Ça, c'est hyper puissant parce que pour négocier après, la force est totalement inversée, quoi.
Bah, puis t'as déjà une valeur perçue qui est grande en fait auprès de la personne qui vient te contacter. Et ça t'évite, toi, de devoir forcer pour avoir le truc, quoi.
Ça, je le dis à chaque épisode, les gars, mais franchement, créer une audience, créer du contenu, peu importe ce que vous faites, c'est méga important, même pas forcément dans le SaaS. Mais alors là, du coup, il y a plein de gens qui te contactent et toi, tu sélectionnes ce gars-là pour faire AdSpell.
Ouais.
Comment t'as dit, ouais, ce gars-là, je vais faire un projet avec lui, mais les 10 autres, c'est non.
Ok.
Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce gars-là et ce projet-là?
Alors déjà, parce que je le connaissais déjà d'il y a longtemps.
Ok. Donc il y a le truc déjà, relation humaine,
Ouais,
contact, confiance.
c'est ça. En fait, j'avais jamais rien fait avec lui, mais juste je traîne un peu sur les mêmes Discord et tout depuis 4 ans à peu près.
Ouais,
Donc, tu sais, on s'est déjà parlé, même si on n'aurait jamais rien fait ensemble, on se connaît, quoi. Donc, je sais que c'est un gars sérieux et tout. Donc, premièrement, mais même si tu enlèves cette partie-là, moi, surtout, ce qui m'intéressait, c'était le fait que ce soit déjà un acteur de sa niche, qu'il ait déjà une crédibilité dans sa niche et que. Donc, si il dit quelque chose, en fait, les gens, ils vont croire ce qu'il dit. Donc, ça, c'était super important. Qu'il ait une connaissance exacte de son marché. Parce que si tu sais ce qui est bon ou pas dans ta niche, bah, t'as plus ou moins gagné le truc en fait, parce que si, vu que tu connais parfaitement la niche, tu sais ce dont les utilisateurs ont besoin, et donc tu sais vers quoi faut driver l'application. Et le dernier truc, c'était quoi? Je me rappelle, j'avais dit trois critères en plus dans la
Ouais, mais
vidéo,
c'est pas grave.
je m'en rappelle plus.
Mais
Mais en gros, c'était, j'ai fait des, j'ai, en fait, ce qui m'a permis de choisir, c'est vraiment, c'est pas un truc à l'instinct, c'est vraiment un choix planifié, quoi, où je me dis, bah, il respecte mes critères, ok. Il y en a plein qui viennent, ils te contactent,
Des touristes.
pas bonjour ni rien, déjà, bon, ça, c'est mort. Et les mecs, ou même dans mon Discord, tu vois, cherche développeur pour faire un stage, je sais pas quoi, mec, genre, ça fait pas pro, tu vois. Personne n'a envie d'aller voir ce gars-là, quoi, tu vois.
Totalement, totalement. Et ce gars-là, du coup, je pense qu'il faisait aussi de la prestat de service dans sa
Ah,
niche avant. Ça, c'est un truc important, c'est
ouais.
que il
Ah, ouais,
proposait un
ça, c'est bien.
service et il gagnait de l'argent grâce à ça. Et du coup, c'était logique que créer un SaaS pour la même proposition de valeur allait marcher aussi, en fait.
En fait, ouais, maintenant que tu me dis ça, en fait, on me rappelle pourquoi on a fait ça. C'est que, en fait, lui, il faisait déjà des automatisations pour ses clients qu'il avait en prestation de service. Mais c'était des automatisations, du coup, que tu peux exporter à d'autres personnes, mais qui sont chronophages à mettre en place, vu que faut les setups pour chaque nouveau client et tout. Alors que tu peux même automatiser la mise en place. Et donc, c'est ça le principe du SaaS. C'est que comme ça met à disposition de tout le monde les automatisations que lui, il a créées pour ses propres clients de base. Et en plus de ça enlève toute la partie setup que lui, il avait pour ses clients, où là, ça le setup automatiquement pour ceux qui s'inscrivent sur le SaaS. Et donc, tu as gain de temps sur le setup et partage donc quelque chose qui a déjà marché pour tes clients et tu sais que ça marche. Donc, tu as déjà une recette qui fonctionne, que les utilisateurs, ils vont pouvoir prendre directement. Et toi, tu as déjà, en fait, même avant même de lancer le SaaS, tu as déjà le feedback de ce que tu faisais avant et tu sais que ça marche. Donc, en fait, tu sais que ça a marché pour les autres.
Totalement. Ouais. Et d'en parler hier justement, le fait de passer de la prestat de service,
Ouais.
ça valide l'idée et après tu peux créer un SaaS sur ce sujet-là en fait.
Surtout quand tu fais déjà la prestat de service dans ton domaine, en fait, en plus, tu peux déjà utiliser les avis des clients que tu as eu avant, parce qu'au final, si tu le transformes en ça, c'est juste une autre manière de faire ta prestat de service, mais au final, c'est toujours le même service que tu proposes. Donc, c'est légitime de reprendre les avis de tes clients que tu as eu avant. Et donc, comme ça, tu crées le SaaS et ça apporte déjà de la confiance sur ton SaaS, parce que tu as déjà eu des résultats avec tes clients. Que là, c'était pas automatisé, c'était fait à la main, mais un process automatisé, c'est pareil que ce qu'on fait à la main au final. Et donc, ça t'apporte une grosse puissance quand même dès le départ. Là, tu vois, on est en train de. Là, c'est l'étape qu'on est en train de mettre en place. C'est récupérer des témoignages de ces anciens clients. En fait, c'est les premiers sur lesquels on a testé le SaaS et sur lesquels on a eu des résultats de ouf dès le début. Donc là, en fait, eux, ça va être simple de récupérer leur avis. Même là, on a des avis super puissants parce qu'ils nous ont fait des avis vidéo.
Trop
Donc c'est
cool.
encore mieux. On attend d'en avoir plusieurs pour faire un truc un peu stylé. Parce que je t'en mets que deux ou trois, c'est pas ouf. Et une fois qu'on aura ça, on va pouvoir mettre ça. Donc tu vois, ça nous a pas demandé beaucoup d'efforts parce que lui, il avait déjà tout ce travail en amont de la prestation de service.
Ouais, hyper intéressant cette stratégie d'aller chercher en fait un influenceur dans la niche dans laquelle tu veux lancer un SaaS pour t'allier avec lui.
Ouais.
Donc trop trop fort. Et bon, on a pas mal déjà parlé de ton SaaS qui s'appelle AdSpell. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce qu'il
Ouais.
fait justement, c'est quoi
Ouais.
le problème qu'il résout et qu'est-ce qu'il propose?
Déjà, pour revenir juste à ce que tu as dit juste avant, l'avantage aussi, c'est que ça te permet à toi, si tu trouves pas d'idée dans ta niche, en fait, ça te permet d'aller chercher des gens comme ça qui ont une autorité dans leur niche, ça te permet d'expandre, d'étendre tes idées sur des hyper facilement en fait d'aller
Et
en
moi je
chercher des gens comme ça. Bon bref, c'était une aparté. Du coup, mon SaaS AdSpell, ce qu'il fait, c'est très niché, c'est pour ceux qui font du Google Ads. Donc Google Ads, c'est le fait de faire de la pub en ligne sur Google. Donc c'est un des plus gros pour faire de la pub à côté de Facebook. C'est les deux majoritaires. Et donc le but, c'est que quand tu fais de la pub sur Google, tu as vraiment un panel. Sur Google, tu as un panel de features, mais monstrueux. Et donc, tu peux te perdre très facilement dans tout ça. Et pour optimiser ces pubs-là, toi, tu veux recueillir de la donnée que tu aies pu eu, donc que ça soit en termes de performance, en termes de coût, pour faire des choix, savoir si tu continues à faire cette pub-là, si tu la coupes, voilà, hein, pour faire en gros. Et il y a déjà des tools comme ça qui existent, il y a déjà des applications qui existent où bah, tu connectes tes comptes et tu as accès à ces données-là. Sauf que ces sites-là, ils ont fait plus simple que Google, mais pas beaucoup plus simple. Tu vas dessus et c'est quand même très galère de savoir ce que tu dois faire pour améliorer ton compte, pour améliorer tes performances, pour économiser de l'argent. Et le problème, bah, c'est que toi, quand tu prends ce genre d'outil, bah, ton but, c'est d'aller de voir le plus rapidement possible ce que tu dois faire et où tu peux gagner de l'argent. Donc, nous, le but, ça a été de prendre la philosophie dans l'autre sens. Parce que quand tu vas sur Google Ads, bah, tu choisis ton compte et là, tu as accès à sa métrique. Et donc là, tu dois aller fouiller dans les menus, voir ce que tu dois améliorer et tout. Et donc, les autres sites, ils ont un peu repris cette formule-là. Et donc, nous, on a pris le truc dans l'autre sens. C'est que quand tu te connectes, et en fait, c'est nous qui te disons directement ce que tu dois faire pour améliorer ton compte. Et l'utilisateur, comme ça, il n'a pas besoin d'aller fouiller ce qu'il doit faire. En fait, nous, on lui dit, voilà, tu pêches là, tu pêches là, tu pêches là, fais ça. Et comme ça, bah, en fait, il n'y a pas d'effort mental. Il arrive sur l'app, il a trois actions à faire, il le sait. Son but, c'est de nettoyer, de faire ses actions pour optimiser son compte. Et à chaque semaine, on renouvelle les actions, on réanalyse les comptes et tout pour réappliquer les recommandations. Comme ça te fait de l'engagement sur l'app en plus, parce que le mec, on lui renvoie des mails en lui disant, voilà, ton compte, il a des problèmes sur ça, 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 donc ça lui donne envie de rester. Et en plus de ça, on a des optimisations en arrière-plan qui tournent, parce que sur Google Ads, quand tu choisis les options en automatique, lui, bah, c'est en automatique, ça veut dire qu'il se doute que tu sais pas trop faire, si tu choisis en automatique, donc bah, il t'allume sur le prix que tu payes, quoi.
Du coup, quand tu laisses choisir
Ouais,
Google,
c'est ça.
bah comme c'est Google qui va te facturer,
Ouais, c'est
forcément, il
ça.
va
Il a
choisir une
intérêt à ce que tu payes plus. Et donc, nous, l'idée, c'est de reprendre la main sur ça, remettre en mode manuel. Et nous, on a des algos qui vont bah, faire en sorte que ça te garde les mêmes performances, mais que ça te diminue ton coût par 30, 50% même des fois. Et donc, sur certains comptes, en 3 mois, on a eu 6 500 balles d'économisées.
Trop cool.
Donc, tu vois, sur le labo, il est rentabilisé pour 3 ans l'abonnement, là.
Et ouais, justement, quand tu as 6 500 euros d'économiser, c'est qui? C'est une agence qui utilise ton SaaS?
Alors non, tu vois, c'est un e-commerçant. Donc là, notre principale cible de base, c'est soit les freelances comme mon associé, donc qui gère des comptes Google Ads pour, en fait, qui gère plusieurs comptes Google Ads. Donc ça veut dire que, par exemple, il a plusieurs e-commerçants en tant que client, et donc lui il gère leur compte Google Ads. Ou alors directement ces e-commerçants-là, s'ils sont assez gros, pour venir chez nous et parce qu'on On sait que notre SaaS il va fonctionner à partir d'une certaine dépense sur Google Ads. Sinon, ça ne va pas fonctionner parce que l'algo, il n'aura pas assez de budget pour fonctionner. Donc, ça, on le dit que ça ne sert à rien de prendre l'abonnement si tu ne dépenses pas assez. Parce que la différence, elle sera. Tu vas gagner 3 balles, donc bon, c'est pas super rentable. Mais les e-commerçants qui commencent à avoir un gros budget, là, c'est intéressant de venir chez nous parce que. Bah, les mecs, ils vont faire 3 clics, hop, leur truc sera optimisé, ils ont même pas le droit, ils ont même pas besoin de savoir le gérer par eux-mêmes, quoi.
Trop cool. Donc Adspend, là, ça fait combien de temps que tu l'as lancé?
Alors, officiellement, je l'ai lancé début août, sauf que à cette période-là, bah, j'étais en train de finir mon alternance en même temps. Et donc, dans mon alternance, j'étais chef de projet. Et j'avais des projets à boucler, quoi. Donc, finalement, sur cette période-là, j'avais assez peu de temps pour finir Adspel. En plus, comme je venais de vendre Sendshirt, ceux qui ont racheté Sendshirt, ils m'ont repris en freelance avec eux. Ce qui fait que bah, je devais honorer ce contrat-là. Donc, quand je rentrais, bah, je faisais mon contrat de freelance. Et après, bah, le temps qui me restait, j'essayais d'en faire Adspel. Donc, le premier mois, en vrai, bah, je ne le compte pas trop parce que je n'ai pas trop pu avancer. Et donc là, bah, depuis septembre, j'ai vraiment. Tu as avancé dessus. Donc là, on est quoi? On est fin septembre?
On est fin
On
septembre.
est fin septembre. Donc bon, bah, ça fait 2 mois depuis la sortie. Et
Et
voilà.
en 2 mois, du coup, c'est quoi un petit peu les KPI du
Ouais.
SaaS utilisateur? Est-ce que vous avez fait
Ok.
des ventes, etc.?
Du coup, en 2 mois, en fait, donc quand je l'ai sorti avec une seule feature. Et le SaaS, il était tout simple. Tu arrivais sur le dashboard, tu avais un tableau avec tes comptes. Tu cliquais sur une ligne de tableau, ça t'ouvre un formulaire pour remplir une des features. Tu cliquais sur lancer, il n'y avait rien d'autre, quoi. Et pendant, bah, Et jusqu'à la semaine dernière, c'était ça le SaaS. Parce que j'ai voulu faire une grosse refonte pour avoir quelque chose de beaucoup plus sympa à utiliser. Donc toute la partie où on avance les statistiques pour l'utilisateur, plus on a voulu rajouter des features. Donc là, j'ai rajouté 5 features d'un coup.
Et du coup, il y avait pas mal de design UX, c'est toi qui t'en occupais aussi?
Ouais, j'ai tout fait. Et justement, en fait, là, ce qui me faisait kiffer, c'était vraiment de prendre de zéro de A à Z le projet. Donc que ça soit UX, parce que c'est quelque chose que je trouve super important et où j'ai envie d'améliorer. Toute la partie marketing et acquisition, etc. Et bah, la partie produit aussi, où j'ai envie d'améliorer aussi. Parce que c'est un peu tout ce qu'un solopreneur il doit savoir faire, quoi, s'il veut y arriver. Et donc là, pendant un mois et demi, j'ai vraiment travaillé sur la limite, c'est on peut dire la V1 du SaaS, parce que c'était la V0 en vrai quand on l'a sorti. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Et donc là, j'ai sorti ça. Donc ça fait voilà, 2 mois depuis le lancement. On a eu en tout 1000. Non, attends. On a eu 650 visiteurs sur le site, il me semble, sur la LP.
Full organique depuis le compte de ton associé.
De ça, de mon post et des vidéos YouTube que j'ai fait dessus. Et lui, il vient de lancer une chaîne YouTube dessus, mais hier, donc ça, ouais, c'est même pas.
Il y a eu beaucoup de touristes, je pense aussi, parce que ton audience
Ouais,
aussi, pas forcément
voilà. Bah,
quelqu'un de
moi, je
touriste.
pense j'ai dû faire peut-être 14 000 vues sur le tweet. Donc en vrai, toutes les personnes qui sont venues là, c'était juste pour checker, tu vois, ce que j'avais fait. Et là, j'ai une petite. Ça me donne une idée d'un truc que je vais dire après. Et donc, on a eu 600. En tout, on a eu 650 visiteurs, il me semble. Et de ça, on doit avoir une quarantaine d'inscrits sur le site. Donc, parce que j'ai fait autrement là, que Centshort. Là, en fait, tu t'inscris et pour avoir accès à l'app, tu es obligé de payer direct. J'ai fini
Pas
de.
de free trial.
Si, mais en fait, il y a le free trial, mais tu es obligé de mettre la CB directement pour déclencher le free trial. Donc, ça limite quand même vachement. Donc, ça, c'est un truc que je voulais voir si c'était puissant ou pas. En fait, est-ce que ça te permet d'avoir un bon taux de conversion ou pas? Et donc, là, depuis. Donc, j'ai mis un free trial de 30 jours. Ce qui fait que si quelqu'un s'abonne, bah, je dois attendre 30 jours avant de voir si vraiment il reste sur le SaaS ou pas. Et comme ça fait que un mois et demi que j'ai lancé, bah, au final, là, ceux qui sont abonnés il y a un mois pile, je ne sais toujours pas s'ils restent ou pas. Donc, pour l'instant, sur le premier mois, on va dire, là, pour l'instant, on est à 200, on a 223 de MRR. Donc, ce qui est vraiment cool. On a signé un mec sur le plus gros abonnement, donc ça m'est bien.
Abonnement à combien le plus gros?
Bah, de base, nos tarifs, c'est 99, 179 et peu. Ça m'est plus 300 et quelques. Sauf que pour le lancement, on a fait à moins 50%, parce que bah, on a encore plein de features à mettre et que les autres concurrents, ils ont déjà tout un panel de features.
50% à vie ou
Oui, 50% à
50%?
vie. Ils ont un gros panel de features, donc bah, pour être un peu intéressant en attendant, on a fait ça. Mais là, comme d'après les retours qu'on a eu depuis la refonte, là, on va bientôt remettre les prix normalement. Et donc là, le prix, moins 50%, l'abonnement était à 150 et quelques. Donc ouais, je pense que le prix de base, ça doit être 379, je crois, je sais plus. Donc là, pour l'instant, ouais, en fait, tu vois, ce qui fait que ça fait 3 clients, je crois, en tout. Donc 229 de MRR avec 3 clients.
En fait,
Donc
t'as pas besoin de beaucoup de lire,
voilà, c'est ça.
c'est des
Là,
assez gros tarifs.
c'est ce que je veux faire avec ce SaaS-là, c'est voir par rapport à un SaaS où tu as un abonnement à 15 balles. Là, du coup, le premier plan, vu qu'il a 99, bah, le nombre de clients qu'il faut pour avoir le même MRR, tu vois, c'est beaucoup moins.
C'est clair.
Donc, c'est un peu sur ça que je veux me tester, là, sur cette partie-là. Et on a encore. Donc, là, on a 3 vrais clients et on a encore 4 ou 5 personnes en trial, là, donc à voir si elles convertissent ou pas. Là-dessus, donc c'est intéressant. Et moi-même, donc ce que je voulais, une idée que j'avais eue, c'était que même si mon audience, c'est pas l'audience du SaaS, en fait, ça m'a quand même de montrer ce que je faisais. Ça m'a permis d'avoir des retours de personnes en fait qui sont intéressées par le dev ou l'UI ou l'UX. Et donc, quand j'ai refait la refonte UI/UX, je postais ce que je faisais et les gens ils me disaient, ah, tu devrais peut-être plutôt faire ça comme ça, ça comme ça. Et donc, moi, ça me donnait des idées ou des choses que j'avais pas forcément. Tu vois, je postais mes maquettes Figma que je faisais. Et en voyant ça, il y a un gars que j'aime bien sur Twitter qui s'appelle Spade qui est venu m'aider à. On a fait un call, il m'a aidé un
Trop
peu à refaire
cool.
le design et tout des cartes. Bon, tu vois déjà la diff entre un vrai designer et moi, le mec il est venu sur ma maquette Figma en 2-2, il a refait des composants de ouf. Et tu vois, si j'en avais pas parlé, j'aurais fait mon truc dans mon coin et peut-être que j'aurais fait un truc moins bien, quoi.
En plus, c'est la question que j'avais notée là quand j'avais pris mon téléphone.
Ouais.
Je voulais te demander justement comment tu avais fait pour améliorer le design UX en étant dev. Et en fait, toi, ça a été le building public, le fait de
Bah,
partager.
ça, et le fait est que je suis dans une démarche là depuis quelques mois d'essayer vraiment de comprendre en fait ce que c'est un bon design et une bonne UX surtout. En fait, c'est quoi les règles de base pour faire quelque chose de propre, de visible et de bien utilisé. Et donc, j'essaye de rappliquer ces bases sur ces règles sur ce que je fais moi. Et pour ça, avant, quand je faisais quelque chose, en fait, je le codais directement et j'ajustais en même temps. Je n'avais jamais utilisé Figma de ma vie. Et là, je prends du plaisir à faire ça sur Figma parce que déjà, ça te permet de tester plein de trucs hyper rapidement. Tu prends une carte, bam, bam, tu te déplaces comme ça, ça super vite. Et en vrai, c'est un kiff de prendre l'outil. Même si j'utilise genre 5% du truc, je fais juste des rectangles et tout, mais c'est déjà bien pour voir une visualisation.
Et est-ce que justement, toi, avec tout le travail que tu as fait là, tu aurais des méthodes ou des ressources pour les gens qui sont pas designers et même peut-être pas développeurs
Ouais.
pour développer une maquette ou une première version de leur produit, mais un truc propre, un truc quali?
Ouais. Alors, je suis encore très loin de faire des trucs propres, mais en gros, moi, ma démarche, c'est déjà de suivre énormément de designers sur Twitter. J'essaie vraiment de me faire un feed, parce que le côté dev, en fait, je commence vraiment déjà à l'avoir. Et si je veux apprendre à mieux dev, c'est. Tu vois, j'ai plus de value à avoir des bons designs dans mon feed Twitter que d'avoir des tips de dev ou quoi, parce que c'est pas ça qui va vraiment m'améliorer en dev. Et donc, j'essaie de vraiment m'abonner à beaucoup de designers. Et à chaque fois que je vois du taf sympa, je le mets en signet. Comme ça, quand moi je cherche de l'inspiration, je vais regarder dans ce que j'ai déjà vu. Donc, déjà ça. Aller sur toutes les marketplaces type Dribbble, etc. C'est des sites où les designers ils peuvent poster leur travail.
Donc il y a Dribbble, t'en as d'autres ou pas?
Non.
Ok, bon, ma Dribbble.
On m'en a donné d'autres, mais je ne me rappelle plus de nom. Et donc là-dessus, par exemple, tu veux faire un dashboard. J'avais noté dashboard et j'avais vraiment pris tous les dashboards qui m'intéressaient. Je les ai mis sur Figma, donc j'ai fait un espèce de carré avec plein de maquettes. Et dessus, à chaque fois, je me disais, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et donc j'essayais de refaire un peu des éléments ou des dispositions que j'aimais bien. Et au final, ça a donné un dashboard assez clean. Je me suis pris 9 dashboards et j'ai essayé de reprendre les trucs que j'aimais bien des 9 et j'ai essayé de les remettre dans le mien, quoi.
Et t'es parti from scratch ou t'es parti avec une bibliothèque de composants, un design system?
Alors moi j'utilise ChatCN c'est une bibliothèque de composants pour React majoritairement, je crois qu'ils font pour Vue.js aussi et peut-être pour Svelte même. Moi je fais pour mes composants, je me fais pas chier pour l'instant, je passe directement par des librairies.
Ça, c'est en code.
Ouais.
Mais je veux dire
Ah, je veux
sur
dire
Figma.
sur Figma, ok. Bah en fait comme j'avais créé ma V0 de mon SaaS avec les composants ChatCN, j'ai exporté mon SaaS avec une extension qui s'appelle HTML to Design, qui te crée un fichier que tu peux importer dans Figma. Et comme ça, en fait, j'avais tous mes composants qui étaient déjà là et j'ai pu les reprendre. Mais après, comme mon dashboard, ça n'utilisait pas forcément les composants que j'avais créés, ceux-là, je les ai redesignés moi-même. C'était des cards que j'ai refaites moi-même. Mais tu connais pas?
Non, je connaissais pas.
Même c'est
Intéressant.
trop puissant ce truc. Par exemple, si tu veux prendre de l'inspiration sur des sites, tu vas sur un site, tu lances l'extension, lui il va scroller le site, il va récupérer tous les éléments, t'importes le fichier dans Figma et bam, t'as
Oui, vrai.
un fichier directement avec tout, avec les fontes, les boutons et tout. Alors, bon, des fois il y a quelques petits bugs, mais bon, c'est normal, tu peux pas tout avoir. Et ouais, moi je fais pas mal de trucs. Quand je vois des beaux sites comme ça, j'essaye de reprendre. Et après, comme ça, si je peux sauvegarder des composants ou quoi qui sont sympas. Moi, je suis vraiment de la team, repomper au maximum sur les autres. S'il y a des trucs qui marchent, les reprendre et bon, pas copier-coller, hein, refaire à ta sauce, mais reprendre le concept ou l'idée de base du truc. Parce que ça te fait gagner énormément. Ça a été testé par quelqu'un d'autre. Donc autant profiter de ça et gagner du temps en fait sur toi,
Clairement,
ton
clairement
truc,
d'accord.
quoi.
Sur un autre projet avec un podcast que j'ai fait dans le SaaS Lab 3 avec mon client, je lui avais repris exactement le flow d'onboarding de Airbnb avec des
Ah ouais.
questions, des pages de
Ah
questions.
mais ça
J'avais
top.
repris ce qu'ils avaient fait.
Ça top.
Et toi, justement, tu utilises ChatScene. ChatScene, ils ont un design system sur Figma. Tu peux importer tous les composants ChatScene et les utiliser dans Figma.
Ah bah ça, tu vois, c'est pas mal ça.
Ça, c'est trop cool parce qu'après, tu as juste à changer les variables dans Tailwind sur ton projet et tu as exactement la même chose en quelques secondes.
Ah bah ça, tu vois, j'aime.
Donc, quand tu utilises ChatScene, ils l'ont. Il y a même d'autres bibliothèques. Souvent, quand il y a une bibliothèque en code, il y a un design system. Du coup, le lien se fait hyper facilement.
Ouais, ça c'est pas mal. Après, du coup, c'est pas mal dans le sens où si ta bibliothèque elle te permet de faire un design system assez simple, mais par exemple, si toi tu pars from scratch, tu vois, tu vas refaire tes boutons et tout, pour faire une première version de ton SaaS et tout, c'est pas très recommandé, tu vois, de perdre du temps à essayer de se faire un design system de malade avec. Vaut mieux partir pour une V0, vaut mieux partir sur des compos, sur des librairies, tu vois, au lieu de se faire tout soi-même. Comme je dis, ChatScene ou quoi, ça fait très bien le taf. Tu peux, dans le fichier de config, en quelques lignes, tu peux remodifier les composants et tout. Ça va assez vite. Que de tout faire from scratch, en fait, tu vas perdre un temps de ouf.
Bah, pour moi, pour sortir un MVP rapidement, c'est tu prends un design system pour designer.
Ouais,
Donc ça va vraiment très vite. C'est une bibliothèque de composants sur Figma que tu peux copier-coller à certains endroits. En plus, si t'es pas designer, parfait. Tu prends un boilerplate. Donc grosso modo, c'est un truc, une base de code avec les fonctionnalités de base. Donc authentification, abonnement, etc. qui utilise la bibliothèque de composants du même design system que tu as utilisé pour designer. Et là, tu vas hyper vite parce que tous les trucs de base, ils sont supprimés. Si t'es pas designer, c'est supprimé. Et si jamais tu veux créer une nouvelle page, comme tu as déjà des pages préfaites avec le design system que tu as utilisé, ça va hyper vite. C'est comme si tu étais sur Webflow en fait. Tu copies des composants et tu crées une nouvelle page en 2 secondes.
Ouais, c'est vrai. Et même si tu le vois souvent sur les pages de composants comme ça, ils refont des dashboards ils refont des mises en situation, par exemple, des clients mail ou des choses comme ça. Et tu vois que juste en utilisant leurs composants sans rien modifier, t'as déjà un design qui est plus que OK pour lancer un truc, quoi.
Clairement, ouais. Hyper intéressant. Donc, comment l'idée Adspell est venue? En fait, c'est juste le gars qui t'a contacté.
Ouais, moi je roule là-dessus, c'est pas mon idée, donc je vais pas inventer un truc comme quoi j'ai inventé une idée révolutionnaire. Non, là juste on m'a contacté, mais le gars il avait déjà l'idée. Après, là où ça va être plus intéressant, c'est qu'on commence à arriver sur une partie où on a les fonctionnalités de base qu'on voulait mettre. On a encore un tas d'idées de fonctionnalités, mais là l'idée ça va être de passer plus sur la partie acquisition, se focus sur cette partie-là. Pour avoir plus d'utilisateurs, plus de feedback, plus d'idées. Donc là, on va commencer à arriver dans cette partie-là. Et là, ça va être intéressant. C'est une partie que j'ai vraiment envie d'attaquer. C'est une partie où je m'y connais encore, où j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, quoi.
Ouais.
Donc c'est pour ça que j'ai hâte de passer là-dessus.
Ok. Hyper intéressant. Et moi, j'ai eu déjà pas mal d'associés sur des projets SaaS et je sais que c'est compliqué à gérer. Toi, ça fait. Donc, tu as eu Sendshort, tu as eu des associés. Tu as ce deuxième SaaS où tu as aussi un associé. Comment tu fais que ça soit relationnel ou même l'égalité pour que ça se passe bien quand tu. Parce qu'on est plein, tu vois, à lancer des SaaS avec des associés. Comment toi, tu as fait pour que ça se passe bien? Et aussi, si tu as fait des erreurs, est-ce que tu peux les partager et nous dire qu'est-ce que tu en as appris?
En fait, l'avantage pour que ça se passe bien, c'est que les mecs, je les connaissais déjà avant, tu vois, comme je t'ai dit, ça faisait plusieurs années qu'on traînait sur le même Discord, donc je savais à qui je m'adressais.
Pour Sendshort aussi, du coup. C'était aussi
Ouais,
des
c'est
gens
vrai.
que tu connaissais déjà.
Et puis même, les associés dans ces genres, je les avais déjà vus en vrai, donc
Okay.
c'était encore plus loin dans la relation, quoi. C'était pas, je suis pas parti avec des randoms total, donc là, j'avoue, avec quelqu'un que j'ai jamais fait de choses avec quelqu'un que je connais pas du tout. Donc pour l'instant, ça je pourrais pas me dire là-dessus, mais en termes de légalité, sinon bah contrat direct, contrat avec les parts qui sont définies à l'avance et toutes les modalités, et bah à chaque fois on part sur une SAS
Okay.
pour la société.
Le contrat, vous le faites comment?
Le contrat, on passe par Legal Place, donc c'est un cabinet comptable en ligne qui a SaaSifié un peu le truc. Et ils s'occupent de faire tous tes contrats, ils rédigent tes statuts, tout, tu payes juste, ils font même ta compta après, quoi, du coup, si t'es avec eux.
Satisfait du service?
En vrai, ouais, c'est hyper simple à utiliser, toi tu te fais pas chier, t'envoies juste tes docs, et après ils se débrouillent. Donc ouais, nous on fait tout par. Pour l'instant, j'en ai fait deux, j'ai fait 2 fois par les gars.
Et tu le fais dès le début? Ou t'attends qu'il y ait des revenus pour le faire? T'attends quel moment pour mettre cette partie en place?
Alors, pas dès le début. Au début, on fait ça par exemple sur l'auto-entreprise d'une des personnes. Ça suffit. Et dès qu'on. Parce que tu vois, si t'as pas d'utilisateur, ça va monter une société de base. Mais dès qu'on commence à faire un peu de chiffres, là, direct, on fait pas les cons, on fait direct la société. Ouais. Parce que ça va si tu fais pas beaucoup de chiffres, mais dès que tu commences à faire un peu de chiffres, là, il faut mieux faire ça dans les règles. Et en plus, au point de vue avec les clients et tout, c'est direct plus carré, quoi.
Ouais. Bah, c'est une question que je veux poser parce que, bah, comme toi, en fait, j'ai attendu de faire du chiffre et après ça part sur contrat, SS, tout ça. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait défini un palier. On s'était dit, ok, à partir du moment où on a gagné 500 euros avec le SAS, on fait les papiers, mais avant, ça sert à rien de se prendre la tête pour un projet, on sait pas s'il va encore marcher, etc., quoi.
Voilà. Et puis, bah, en fait, tu le sens direct, tu vois, si tu vas avoir de l'attraction ou pas sur ton SaaS. Là, je sais que moi, j'ai une vision de malade sur ce SaaS et j'en suis même pas à 0,1% de tout ce que je veux faire. Et là, déjà, juste, on a lancé avec une table et deux clics, on a déjà du chiffre. Donc, bon, voilà, tu vois, je me dis, c'est bon, on peut partir. On fait ça dans l'ordre et voilà. Bon, il y a toujours un risque que ça fonctionne pas, mais bon, ça part assez bien.
Il faut que tu fasses building public, tu continues. Si ça parvient en plus, il
Ouais,
faut enregistrer. Tu vas être trop dégoûté de ne pas avoir fait les vidéos et de ne pas avoir
ouais,
partagé.
ça arrive. Ce podcast en fera partie.
Ouais.
Ce
Ouais,
podcast en fera
je
partie.
mettrai sa chaîne et puis même Hatspell si vous voulez les voir et tout
Ouais.
en description. Et du coup, tu partages un petit peu l'aventure Hatspell
Ouais.
chaque semaine.
Alors, j'ai commencé la première semaine.
Ouais.
Sauf qu'après, j'ai eu pas mal de. Bah, justement, j'étais dans cette période où je voulais refaire le dashboard et tout. Et comme c'était beaucoup de code, j'ai. Alors, je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais je me suis dit que c'était pas forcément intéressant de partager ça. Et pour moi, j'ai plus de valeur à apporter dans les process que je mets en place et comment j'obtiens les résultats plutôt que de partager du code et des sessions de 6 heures de code, tu vois. Alors.
Ça, c'est une discussion qu'on avait hors podcast et je vous invite à nous dire votre réponse, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, tu devrais essayer de continuer à partager. Bon, s'il n'y a pas de contenu, t'attends une ou deux
Ah
semaines, mais quand même à fond partager, quoi. Parce que je pense, moi en tout cas, en tant que spectateur, j'adore voir du building public. Je préfère largement ça à quand c'est raconté après.
ouais.
Tu vois, partager l'expérience, dire ok, ça va réussir, ça va pas réussir, c'est partager. Si ça réussit, c'est encore plus fou, quoi.
Ouais, ça va, ça va. En plus, j'avais commencé à filmer les calls avec les clients et tout.
Trop cool ça.
Ah, c'est vrai, il faudrait que je leur fasse un peu plus. Surtout que ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet de voir bah, quel type de questions on pose, comment on tourne le truc et dans quel. C'est quoi l'objectif en fait d'appeler. Pourquoi on appelle cette personne en fait, qu'est-ce qu'on veut en tirer et qu'est-ce qu'on fait des informations qu'elle nous a données.
Voir
Ça,
les
c'est.
insides, je pense que ça va intéresser de fou les gens. Moi, ça m'intéresserait, tu vois, de voir comment je fais tes appels pour comparer moi, pour reprendre comment je l'ai fait. Par exemple, hier, Florent, qui a un accompagnement marketing pour les SaaS, nous partageait la méthode, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais pour pas influencer, tu sais, les réponses.
Ouais. Ah bah non, c'était pas une méthode, mais c'est ce qu'il avait appris dans un livre qui s'appelle Big Mom.
Ok, bah Big Mom, le
Parce que
livre.
quelqu'un m'en avait déjà parlé, donc c'est pour ça que j'ai retenu le titre. Faudrait que je le lise et c'est vraiment le. Attends, je sais pas si j'ai une connerie, mais je crois que c'était ça, je crois que c'était le livre Big Mom. Et c'était vraiment pour savoir, ouais, essayer de poser les questions de manière à ce que la personne ne soit pas influencée et qu'elle puisse avoir la réponse la plus neutre possible.
C'est ça. Parce que souvent, quand on va poser la question, est-ce que tu kiffes mon projet?
Alors.
On a envie d'être enthousiaste, on va faire ouais, mec, trop cool, lourd ton projet, frérot. Alors que des
Et tu
fois.
vas payer combien? Ah.
Ah ou
Ah ouais,
non,
bon bah. On verra le mois prochain.
on verra, ouais. Ok. Bon, avec les outils et tout, on a déjà un peu parlé. Ah. Ah, et là, le truc. Parce qu'on est du coup le Airbnb où on est à côté de la route, donc
Ouais, là, le
des fois
monde derrière. Je
on
sais pas
passe
si
sur
on
la
entend au
coupure.
micro, mais.
On l'entendra même, peut-être pas. Alors, question intéressante, vraiment qui m'intéressait, c'est je me doute que tu as dû faire quand même des. Même si SendShort ça a été plus ou moins une réussite, tu as dû faire des erreurs sur SendShort. Quelles sont les erreurs que tu as fait sur SendShort? Genre, tu mets un point d'honneur à pas refaire justement sur Hatspell.
Alors, il y a différents types. Déjà, les erreurs côté produit, donc côté technique, code. Quand j'ai commencé SendShort, je savais pas coder. Donc, il y avait énormément d'erreurs. Donc là, le type d'erreur où le mec clique sur un bouton, il a l'application Error, tu vois,
Il veut payer, mais il peut pas, quoi.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, anecdote très drôle, quand j'ai lancé Sensort, la veille, en fait, on me dit, ah, ça serait pas mal d'avoir un compteur dans la sidebar de combien le setter il a fait de short et tout. Et donc, je me dis, ouais, ça va être pas mal. Je fais le truc. Donc, je me base par rapport à l'abonnement du gars et tout. Je mets le machin, je teste pas. Le lendemain, on lance Sensort. Et quand on lance, je me dis, je vais quand même faire un petit test de paiement pour voir si le process marche. Tu payes, ça passe et tout. Une fois que tu as payé, ça ne plus rien du tout. À cause de la... Et en fait, c'est à cause du truc que j'avais fait là. Ouais,
Aïe,
donc ça, un petit coup de stress quand même sur le moment. Non, du coup, ouais, faire des choses beaucoup plus carrées, qui sont plus robustes. Alors ça, forcément, c'est venu avec l'expérience. Du coup, à force de développer des choses, plus tu développes, plus tu vas vite et plus tu fais bien. Donc ça, c'est venu avec ça. Côté produit, faire des choses qui sont compréhensibles. Parce que quand tu commences dans les SaaS, tu es dans ta vision du truc. Et pour toi, c'est limpide et clair, mais en fait, pour les utilisateurs, c'est pas du tout limpide.
Tu parles de design UX du coup?
Ouais, voilà.
Ouais. Vraiment comment l'expérience
Voilà,
utilisateur
c'est
quoi.
ça. Donc, par exemple, des trucs tout bêtes, mais rajouter des tooltips quelque chose qui sont assez simples à mettre en place, mais où ça peut faire comprendre directement une action. Au lieu de juste mettre des icônes, bah mettre une action à côté, ça aide pas mal aussi.
Je vois pas.
Donc, par exemple, on avait des boutons où c'était juste un icône, tu vois, c'était
Ah,
un bouton icône.
ok.
Sauf que par exemple, si au lieu d'avoir juste une disquette, bah, tu mets sauvegarder à côté de la disquette, là c'est beaucoup plus compréhensible directement
Ouais.
pour l'utilisateur.
Ouais.
Donc en fait, il y a des petits trucs comme ça et faire des trucs aérés et avec une hiérarchie de l'information. Donc, hiérarchie de l'information, ça veut dire que tu vas essayer de faire, par exemple, un titre, tu vas le mettre bien visible, gras, avec une telle taille. Le sous-titre, tu vas le mettre un petit peu plus petit, mais comme il va avec le titre, bah, il y a un petit espacement entre les deux. Sauf que le contenu en dessous avec plus d'espacement, enfin voilà, ça c'est un peu des règles de design que j'ai appris au fur et à mesure. Et donc, ça, bah, j'essaye de bien le mettre en place pour. Parce que la hiérarchie de l'information, c'est quelque chose de très important, c'est le sens de la lecture que va avoir l'utilisateur sur l'application. Donc, ça, c'est plus sur le côté app pour le moment. Également, j'ai rajouté du tracking qu'il y avait sur toute la partie analytics. En fait, que sur Sensort, on a mis énormément de temps à mettre en place. En fait, on faisait les choses aveugles carrément. Et alors que là, dès le début, ça, c'était même pas sorti que j'ai mis de l'analytics, donc post-hog. Moi, j'aime trop la DA de cette application. Ça te permet en fait d'avoir des données sur des événements que les utilisateurs font, sur les boutons qu'ils cliquent, les pages qu'ils visitent, combien de temps ils restent. Tu peux revoir leur session, même voir ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils se sont baladés dans l'application. Pour l'instant, c'est un peu les seuls trucs que j'utilise.
Hyper important de mettre un truc ouais, pour récupérer des datas
Ouais.
parce que des fois tu peux avoir des problèmes, un churn élevé, un problème au niveau de l'acquisition, et il faut savoir d'où ça vient parce que si tu dois essayer de deviner d'où
Ouais,
le problème vient, ça va être une galère.
ah, ça.
Donc c'est hyper important de mettre des outils qui te permettent d'avoir de la data.
Ouais.
Plus tu as de data, plus tu prends des décisions qui sont appuyées par la
Ça,
data,
c'est ça.
donc des décisions logiques et qui vont apporter de bons résultats.
Et surtout, même si, en fait, cette donnée, je ne l'ai pas encore process, mais c'était juste pour l'instant, je voulais juste la collecter. Et comme ça, bah, plus tard, quand je voudrais faire en vrai, quand je voudrais optimiser mes chemins sur mon application, bah, j'ai déjà la donnée pour le faire. Parce que le jour où tu décides d'optimiser, bah, en fait, si tu te décides à ce moment-là de mettre en place le tracking, bah, faut encore attendre un mois avant d'avoir les données, quoi.
Parce que sur Sendjord, à un moment donné, vous êtes retrouvé en mode, bah mince, on n'a pas de data, mais il nous en
Ouais, c'est
faut
ça.
savoir.
En fait, on s'est retrouvé dans le sens où on avait du churn, on ne comprenait pas pourquoi. Et donc là, on s'est dit, bah, ça serait peut-être pas mal d'avoir un peu de données, savoir comment les utilisateurs utilisent les applications, où est-ce qu'ils ont du mal et tout. Et donc pour ça, on a mis en place des outils. On a mis, surtout nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est de mettre des heatmaps sur notre application. Donc les heatmaps, ça va te donner des zones où les utilisateurs y vont en premier, en deuxième, en troisième. Et là, grâce à la souris, en fait, où est-ce qu'ils mettent leur souris en premier. Et ça nous a permis de remarquer. Bah, en fait, que les utilisateurs, ils n'allaient pas où on voulait. et qu'on n'avait pas du tout pensé ça. Donc ça nous a permis de revoir un peu tout le fonctionnement de toute la mise en place de l'app. Et là, donc c'était pour éviter ça. Et surtout, comme je t'ai dit, moi, comme là, j'ai mis le paywall directement en entrée, en fait, je voulais vraiment traquer combien de gens rentrent dans l'onboarding, combien de gens arrivent jusqu'au paywall, combien de gens passent après le paywall. Et ça, c'est une stat. Donc, j'ai pas encore la stat là. Faudrait que je la regarde. Mais ça, vraiment, parce que du coup, comme moi, le plus important, c'est ça. C'est là quand tu passes par le paywall. J'ai tout intérêt à suroptimiser la partie avant pour que j'ai plus de chances possibles de convertir à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que le tracking, ça sert énormément dans ce moment-là. Donc, j'ai ça. Et surtout, le côté prendre des gens en appel. On l'avait pas fait assez sur Zenchart au début. Là, vraiment, tous nos clients, on essaie de les avoir en appel. Pas même client ou pas, toute personne qui a mis un email sur l'application, on essaie de l'avoir en appel. Donc, si c'est quelqu'un qui a converti, savoir pourquoi il a converti, c'est quoi ses problématiques auxquelles le SaaS répond, qu'est-ce qu'il aimerait avoir en plus. Si la personne n'a pas converti, bah pourquoi, qu'est-ce qui lui manque. Si elle a eu des problèmes sur l'application, si elle n'a pas compris certaines choses. Et si c'est une personne qui a converti mais qui a arrêté, bah pourquoi elle a arrêté? Pareil, s'il lui manque des choses. Et en fait, ces personnes-là, c'est celles qui vont t'apporter le plus parce que bah, si elles ont été bloquées par quelque chose ou si elles ont arrêté, ça veut dire que bah, ton produit ne répondait pas encore assez fortement à leurs besoins. Donc bah là, leur feedback, il est plus que nécessaire pour t'améliorer dans la bonne direction, quoi. Il y a ça, beaucoup d'emailing dès le départ pour essayer de garder l'utilisateur dans le flow.
Du coup, vous n'avez pas fait assez d'emailing sur SendShort, c'est ça?
Non, bah, au début, on a mis beaucoup de temps et c'était vraiment des séquences d'emails bien précises en fonction de certains événements. Mais là, plus des emails dans le sens qui va engager l'utilisateur. Par exemple, s'il fait des bonnes actions, s'il n'est pas venu depuis longtemps sur l'application, si, bah, comme toutes les semaines, il a un mail avec les nouvelles recommandations qu'on lui dit, des surveillances. Donc, comme ça, il reste, même quand il n'est pas sur l'app, il reste dans le flow, tu vois, il reçoit des notifications de l'app et tout.
Vous essayez de le hooker, quoi. Vous envoyez des petits
C'est ça,
hooks
voilà.
pour qu'il prenne l'habitude de rester sur
Ah, c'est
l'application.
ça.
Une fois qu'il a l'habitude, après il reste sur
À chaque
l'application.
fois, tu as un bouton qui essaye de te ramener sur l'app, quoi, et qui te dit, OK, bah, on surveille mes trucs pour moi, c'est cool, tu vois, et comme ça, il reste informé sans partir sur l'app.
Ça, j'ai un livre hyper intéressant que je suis en train de lire qui en parle. La stratégie justement d'Instagram. Parce qu'Instagram, on
OK.
est tous plus ou moins addictifs. Et le livre, alors je vais le partager parce qu'il est très intéressant, c'est Hooked de Mir Eyal. Bon, je peux le montrer vite fait là. Hop. Et grosso modo, ils présentent un petit peu la stratégie d'Instagram. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient plein de notifications d'emails pour te ramener sur l'application pendant le premier mois, on va dire, le temps que tu prennes l'habitude. Et une fois qu'ils ont dépensé de l'argent, de l'énergie, de la technique pour t'envoyer des emails, faire de la pub, pour te faire revenir pendant un mois sur l'application, à partir de là, tu as pris une habitude dans ton cerveau. Et du coup, ils ont investi assez pour qu'ils aient plus investi par la suite. Et que maintenant, tu vas rester par toi-même parce que tu as pris l'habitude, ils t'ont forcé à prendre l'habitude, ils t'ont manipulé et tu vas vouloir rester sur Instagram à vie. Une fois que tu as fait prendre une habitude à un utilisateur, que ça fait genre 6 mois qu'il utilise ton produit, ça va être hyper dur pour un autre concurrent de venir te le prendre parce que même si ton produit est mieux, bah comme il a l'habitude d'utiliser ton produit, il ne voudra pas changer même si l'autre est un peu mieux. Et il y a un gars qui avait dit, alors je ne sais plus son nom, qu'il faut que le nouveau produit qui arrive sur le marché pour remplacer le précédent, il soit à peu près 20 fois mieux.
Ah
Pour que
ouais,
l'utilisateur il veuille changer. Imaginons, tu vois, il y a un concurrent d'Amazon qui arrive sur le marché. On a tellement une habitude ancrée d'aller sur Amazon pour acheter nos produits que ça va être hyper dur pour lui prendre des places de marché. Et ça, c'est un truc hyper puissant. L'habitude de l'utilisateur, il ne faut pas la prendre à la légère parce que s'il a l'habitude d'utiliser un produit, pour faire quitter ses habitudes, aïe aïe.
Bah, surtout s'il est satisfait en plus. Et parce que s'il est pas satisfait, s'il y a un truc mieux qui arrive, voilà, ça va pas être compliqué. Mais si le gars est satisfait, et en plus qu'il est vraiment dans ce cocon autour de lui, comme quoi tu bichonnes un peu, non? Comme il faut, bah, il va être, comme tu dis, il va avoir du mal à. Si un autre, ça, ce qui arrive, il va avoir du mal à quitter le tien, parce que il sait que dans le tien, bah, il est bien et tout, il est toujours. Voilà, il est réconforté à l'utilisation, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une bonne stratégie, ça.
Bichonner ses
Voilà.
clients.
C'est ça. Bichonner ses clients, donc beaucoup plus de mails. Et pour l'instant, c'est à peu près sur tous les points que j'ai amélioré par rapport à son short qu'on n'avait pas encore mis en place. Et là, après, tous les autres points d'amélioration, ça va être dans la partie acquisition que je suis en train de voir, que je n'ai pas encore fait, donc je peux pas, pour l'instant, je ne peux pas donner de feedback là-dessus.
Il y a deux points intéressants qui ressortent, c'est donc la prise de data avec PostHog et la prise de data avec les appels des utilisateurs. Donc en fait, c'est prendre un maximum de retours et de data pour pas faire un truc au
C'est
pif, au
ça.
hasard, ou aller dans une direction qui n'est pas celle de ta niche.
C'est
C'est
ça.
toujours essayer de viser en fait ce que veut ta niche, quoi.
C'est complètement ça. Et ça, par exemple, sur ZenShort, on avait fait beaucoup moins d'appels dès le départ. On s'est mis plus tard à faire des appels. Et on s'est rendu compte que c'était trop puissant en fait, d'avoir les avis en direct des utilisateurs. Et le mieux, c'est de faire en sorte, dès les premiers calls, on faisait un peu des calls d'onboarding des clients. Et donc, on leur disait, bon, voilà, c'est ça le site, inscris-toi et tout, fais ta vie. Et donc là, on pouvait voir comme ça à quel moment il avait des complications, à quel moment c'était compliqué pour lui de prendre une décision ou c'était pas limpide ce qu'il devait faire. Par exemple, il arrivait sur le dashboard principal, quoi, qui est censé être le truc le plus simple. Et là, il nous a dit, bah, je sais pas quoi faire. Donc, tu vois, là, on s'est dit, ah ouais, merde. Pour nous, c'était limpide qu'il fallait cliquer sur une ligne de la table, mais en fait, pour lui, pas du tout. Donc là, c'est là que je me suis dit, ouais, là, ça craint, quoi. Le mec, il arrive sur le dashboard, il sait pas quoi faire. C'est pas ouf niveau utilisation. Donc là, ça, tu le sais pas si tu fais pas ce genre de truc.
Ouais, toi, t'étais tellement la tête, bah, comme nous tous,
Ouais,
hein,
voilà.
dans le projet, que
Ouais, c'est
c'est
ça.
hyper dur d'avoir une
Ouais,
vision extérieure, alors que ça fait 6 mois que t'es dessus, quoi.
ouais.
C'est impossible.
Et pourquoi tout est trop simple, vu que c'est parce que c'est toi qui l'as fait. Et en fait, quand tu mets quelqu'un d'autre dessus qui est vraiment externe au projet, bah en fait, ce que tu pensais être simple, ça l'est peut-être pas du tout.
Ouais, totalement. Et d'ailleurs, il y a, je repense à un podcast que j'avais vu, je sais plus sur quelle chaîne, mais en gros, c'était les fondateurs de Somme Magique.
Ah oui.
Et eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient créé un groupe WhatsApp avec à peu près les 100 premiers utilisateurs qui étaient dans le groupe WhatsApp. Et ils ont dit que ça, c'était hyper puissant parce que les mecs qui étaient dans le groupe, ils étaient trop heureux de partager une aventure et de développer un SaaS depuis zéro, tu vois. Genre, ils étaient contents de juste donner des feedbacks comme
Oh,
ça et
ça
de
fait
faire
pas mal.
partie d'une petite communauté de 100 personnes sur WhatsApp. Donc, est-ce que toi, c'est un truc que tu pourrais faire, par exemple, créer un groupe WhatsApp avec les 100 premières personnes pour les impliquer encore plus et tu vois, ils sont 100 à t'envoyer des petits messages en mode ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça.
Oh, ouais, ça peut être une stratégie intéressante parce que ça te permet d'avoir des gens qui sont soudés au projet, quoi. Et en plus, tu sais que ces personnes-là, en fait, elles vont être tellement impliqué dans le projet que bah ça te fait au moins 100 utilisateurs tu vois de base qui vont pousser le projet qui vont pas churn et qui vont être 100% avec toi donc en vrai ouais, c'est vrai que c'est une stratégie qui est sympa ça
Comme ils sont dans le groupe, c'est un peu comme s'ils faisaient partie du
ouais
club sportif, tu vois, ils soutiennent leur club sportif. Et donc, tu vas leur demander un feedback, ils vont pas faire un feedback à ton entreprise, ils vont faire un feedback pour leur équipe. Ils vont être vraiment l'impression de, bah non, je le fais pour moi presque le feedback, tu vois. Le truc est un peu retourné. Et tu pourrais aussi te dire, bah je vais le faire sur Discord. Mais le truc, c'est que tout le monde a WhatsApp, alors que tu vois, peut-être ta cible, les gens, ils sont pas forcément sur Discord. Et WhatsApp, c'est vraiment le truc où le gars peut prendre son téléphone, ah j'ai vu ça, nanana, et t'envoyer un petit message ou un petit audio en 2 secondes.
Non, c'est vrai que c'est intéressant. Et bah, pour l'instant, ça, en fait, on n'a pas fait vraiment de groupe. On le fait avec des personnes individuellement. Ou on essaie de vraiment relancer le contact à chaque fois. On essaie vraiment de relancer le contact à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'idée de faire un groupe avec et de mettre toutes ces personnes ensemble. Après. Comme c'est dans un monde un peu tu vois, de concurrence, vu que par exemple Somme Magique c'est plus tout le monde dans le même truc, alors que là chacun a sa boutique, chacun a son truc, ça peut être un peu chaud des fois de mettre certaines personnes ensemble
Ouais.
au même endroit.
Oui, il y a de la concurrence,
Ouais,
en fait,
c'est
il peut y avoir
ça.
de la concurrence
Ouais.
niveau quoi. Ouais, je vois. Ok, intéressant. Putain, on a donné pas mal de techniques là déjà. Je regarde un petit peu les questions que j'avais mises. Stratégie pour les premiers clients, on a déjà plus ou moins fait. Comment vous allez choisir les prochaines features?
Pour les prochaines features, alors pour premier client, par contre, ouais, s'il y a un truc que j'ai pas dit qui peut être intéressant, c'est vraiment les premiers clients. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné l'outil gratuitement. Nous, ce qui nous intéressait juste, c'était d'avoir en fait le truc, c'est que ce qui nous intéressait juste, c'était d'avoir leurs avis sur notre outil. Et donc, pour ça, bah, en fait, le mec, si tu lui donnes gratuitement, ça l'engage à rien. Donc lui, il va pas avoir de blocage à utiliser son application. Et en plus, bah, nous, on s'en fout, tu vois, on lui donne la bille gratuite. Donc, il a un outil qui lui sert. Donc, il est trop content de pouvoir avoir ça gratuitement. Donc, bah, il va te faire un feedback volontiers. Et toi, c'est quelque chose qui va être super, super intéressant pour la suite où tu vas pouvoir l'utiliser. Donc, voilà, moi, ce que je pensais, c'est vraiment au début, essayer de trouver des personnes dans ça, qui peuvent être potentiellement clients, mais de leur faire gratuitement. Parce qu'en fait, certes, bon, bah, en fonction du SaaS, c'est peut-être pas trop possible parce que si tu as d'énormes coûts et tout, ça peut être un peu galère. Mais c'est un coût à prendre en compte parce que ça va te permettre plus tard de bien te lancer et tout correctement et d'avoir des premiers feedbacks directement pour améliorer ton SaaS, quoi. Et donc, bah, c'était donc une de ces personnes qui nous avait dit que le dashboard n'était pas clair, qui nous a fait remonter des points et tout. Et qui maintenant, pour rebondir sur ta question juste avant, qui nous donne des idées de features monstrueuses qu'on pourrait mettre sur le. Parce que c'est un gars qui est vraiment pile poil dans notre cible. Et donc, lui nous donne des idées monstrueuses qu'on pourrait mettre, parce que ça le fait kiffer d'utiliser l'outil. Et il a même envie de le recommander aux autres. Donc, tu vois, trop bien. Et donc, il nous donne des. Nous, en fait, bah, la personne avec qui je le fais, avant même de le faire, il avait déjà une to-do longue comme le bras. Mais là, lui, en plus, avec les autres, donc, si personne nous dit ce dont ils ont besoin, on va faire ce que mon pote il avait comme idée. Mais là, comme eux nous disent des choses qui sont plus intéressantes que ce qu'on avait prévu, bah, là, on va faire les choses qu'eux nous disent.
Et comment vous définissez justement les features qui sont en priorité par rapport aux autres ? Vous devez avoir plein de demandes de toutes les personnes.
On choisit. Alors, nous, comme on veut faire une plateforme qui permet soit d'aller plus vite sur sa prise de décision, soit d'économiser du budget, nous, on va prioriser ces features qui sont autour de ça et qui, en plus de ça, vont convenir à plus ou moins 80% des utilisateurs. On ne va pas faire une feature pour un gars. Là, ça n'a pas de value. Moi, ça va me prendre une semaine de dev, quoi. Pour une personne, là, ça n'a pas de valeur. À moins que ce soit un client qui me paye 2000 par mois, bon, là, limite, s'il a besoin d'une feature, je peux lui faire. Mais voilà. Et sinon, ouais, en fait, nous, notre SaaS, on sait qu'on veut qu'il aille dans cette direction. Donc, on prend les features qui vont dans cette direction et qui, en plus, parlent à la plupart des utilisateurs.
Ok, ouais, donc faut en fait qu'il y ait une récurrence, que vous entendez lié plusieurs fois la même feature, ce qui est demandé.
Pas forcément, parce que comme pour l'instant on n'a pas des centaines d'utilisateurs non plus, bah on n'a pas, pour l'instant on n'a pas énormément de demandes. Donc, mais comme mon pote lui connaît très bien le marché, bah quand quelqu'un lui demande un truc, il sait si c'est pertinent ou pas, parce que lui, comme il a ses propres clients, il sait s'il peut le répliquer sur ses clients et tout.
Ok. Ça peut pas être un piège justement de se baser juste sur l'avis de ton associé? De ne pas prendre assez de data pour qu'on soit sûr à 100%.
En vrai, moi, je pars du principe que il connaît son marché. Tu vois, il sait, il a fait assez de choses dans son marché pour savoir ce qui est pas mal ou pas. Certes, c'est toujours mieux d'avoir des données basées sur des métriques. Mais comme on lance actuellement, tu vois, nous, en fait, les idées que les gens nous donnent, c'est déjà des features en fait qui sont dans le qui vont toujours dans le même sens que ce qu'on a, nous on avait prévu. Donc c'est pas comme si on partait là et que la feature que le gars nous dit, elle va là, tu vois. Dans tous les cas, ça va dans la même direction que nous. Donc en vrai, on prend assez peu de risques à faire quelque chose que les gens nous conseillent.
Ok. Là c'est bien. C'est-à-dire que t'as fait un premier SaaS, ça a bien marché, t'as réussi à le scale ou plus ou moins, on va dire. Et là, tu as un deuxième SaaS où justement ça commence à bien marcher. Qu'est-ce que tu vas faire cette fois pour scale, peut-être encore même plus loin que Senshort? Qu'est-ce que vous avez en tête justement comme stratégie?
Ah oui, je vais me foncer mes idées jusqu'au bout. En gros, alors, l'idée de base, c'est de créer un écosystème en fait autour de ce SaaS. Alors, par écosystème, j'entends quoi? J'entends en fait que le SaaS, en fait, faut imaginer un cercle et le SaaS en fait il est il est pas au milieu du cercle, il est sur une des bordures et en fait il va se compléter avec d'autres choses et en fait au centre c'est l'utilisateur en fait et l'utilisateur il va avoir accès à tout un panel de choses et cet écosystème c'est ça en fait, je vais entourer l'utilisateur de choses avec le SaaS, donc le SaaS ça fait partie d'une des choses et pour le scale en fait. Nous, ce qu'on veut mettre en place, Majoritairement, la deuxième partie du SaaS, ça serait toute une partie de formation en fait pour accompagner l'utilisateur. Donc, j'ai commencé déjà à le mettre en place au sein du SaaS actuellement. Donc, on l'a appelé la Hotspell Academy pour former les gens à utiliser Google Ads, à mieux l'utiliser. Et comme ça, on rentre déjà dans la tête des gens comme quoi on est légitime à faire apprendre des choses aux gens sur cette thématique. Et comme ça, bah, le jour où on sort la formation dessus, et bah, les utilisateurs qui sont déjà dans le SaaS, s'ils ont envie de s'améliorer dessus, et bah, on les met dans la formation. Et sinon, au contraire, la formation, ça peut être un point d'entrée vers le SaaS également. Donc en fait, le SaaS est un point d'entrée vers la formation et la formation est un point d'entrée vers le SaaS. Et après, ainsi de suite avec les autres points de l'écosystème. Et en fait, comme ça, tu rebondis entre tous les points. Et ton utilisateur, en fait, bah, il est pris entre plein de trucs. Et ce qui fait qu'après, pour en sortir, une fois qu'il a pris l'habitude d'utiliser tous tes systèmes, et bah, c'est très compliqué pour lui d'en sortir parce que bah, c'est comme Apple, en fait. Apple, une fois que ça a pris l'iPhone, bah, t'as envie de prendre les AirPods. Sauf que les AirPods, en fait, sur Android, c'est trop nul. Donc, tu te dis, bon, bah, si je change de tel, c'est chiant. Une fois que tu as pris le Mac, que tout est connecté, bah, tu te dis en fait si je repars sur Android, c'est nul aussi. Et donc après, tu es bloqué, quoi.
Ouais.
Donc l'idée, c'est un peu de reproduire ça.
Ouais, hyper intéressant. Et en plus, j'ai fait une vidéo récemment
Ouais.
justement sur ce sujet-là. Je crois que c'est la stratégie dont personne ne parle pour faire plus de 10 000 euros avec son SaaS. Parce que souvent, je vois un peu la mode des micro-SaaS où les gens ils font 500, 1 000 euros avec une niche, puis après ils vont partir sur une autre niche. Mais si vraiment tu veux faire beaucoup d'argent, en fait, il faut prendre un persona et proposer plein de choses sur ce même persona avec l'idée, un, d'augmenter la LTV. Parce que tu vas proposer plusieurs services, plusieurs produits au même persona et pas un seul microservice. Et deux, d'avoir plus de portes d'acquisition. C'est-à-dire que tu vas avoir ta formation, tu vas avoir le personal brand de ton co-associé, tu vas avoir plein de possibilités pour l'utilisateur pour rentrer dans ton écosystème. Et pour moi, ça, c'est la stratégie la plus puissante. Clairement, il y a Alex Hormozzi qui fait ça, il y a Marc Lou chez les Indiepreneurs qui fait ça, et j'en parle dans cette vidéo justement. Donc, ouais, vous avez vraiment la volonté de créer un écosystème. En fait, vous créez pas ça, vous créez un
C'est
écosystème.
ça. Et tu vois, ce truc-là, tu peux l'agrémenter d'outils gratuits, tu vois, autour en plus qui, eux, servent à te diriger vers le SaaS ou la formation. En fait, c'est toutes des stratégies et c'est ça, en fait, qui va être super intéressant. Pour moi, c'est ça qui m'excite dans ce projet, c'est de mettre tout ça en place, outre le fait, outre le SaaS, en fait, parce que c'est des trucs que j'ai encore jamais fait. Mais je sais qu'ils ont très, très bien marché pour d'autres personnes et qui ont déjà fait leurs preuves, en fait. Et au final, c'est même logique, en fait, que ça fonctionne. Parce que bah, quand tu fais les liens en fait entre tout, tu te dis qu'il y a en fait l'utilisateur une fois qu'il a accès à tout ça, le mec il a trop de value pour ce que tu lui offres quoi. Donc c'est là que ça marche mieux après.
Ouais, totalement, totalement. Donc là, on va pouvoir suivre un peu le scaling sur tes
Ouais, c'est
réseaux.
ça.
Donc, tu es sur LinkedIn, X, YouTube.
Ouais.
Romain, ses réseaux sur YouTube, c'est ça?
C'est ça.
Ok, LinkedIn, X, pareil.
Ouais, X et Rome CRZ.
De toute façon, ce sera dans la description. Donc, les gars, allez suivre parce que là, il est en train de lancer un nouveau banger. On va voir si ça va aussi loin que
Ouais.
Senshirt ou pas, mais en tout cas, c'est bien parti. Est-ce que toi, tu as un dernier mot de la fin?
Ouais, c'est le dernier mot, ça serait de se lancer en fait. Il y a tellement de bénéfices à tester des trucs, à se lancer, que j'aurais très bien pu. L'année dernière, j'aurais très bien pu faire la même année et le soir rester chez moi, tu vois, à play avec les potes ou à faire autre chose. Et si j'avais pas fait tout ce que j'avais fait là, bah, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et alors, c'est peut-être pas facile au début de se lancer et tout, mais une fois que tu l'as fait, et ben en fait, tu vas. Moi, je trouve ça trop kiffant, en fait, tu vois, de créer des choses et tout. Et une fois que tu as le pied dedans, je trouve que c'est un monde où tu peux plus sortir après. Et alors que je trouve que ça vaut le coup de faire l'effort.
Ouais, c'est un monde hyper addictif aussi, l'entrepreneuriat. Une fois que t'es lancé, après, tu peux plus t'arrêter, quoi. Et ça nous permet d'être ici, de
Ouais,
faire
c'est
des
ça.
podcasts, d'avoir aussi ce côté, cette aventure humaine. Donc, franchement, c'est trop cool. C'est vraiment un jeu vidéo
Ah, c'est
dans la
ça.
vraie vie. Donc, arrête de jouer à LOL et rejoins-nous sur le plateau. Bon, les gars, merci de me regarder. Merci,
Merci à toi
Romain.
pour l'invitation, c'était trop
C'était trop, trop cool. Je pense qu'il y a vraiment plein, plein de choses intéressantes de dire. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!